19h40, Kinshasa, dialogue entre Congolais, présenté par Jean-Claude Toumbakamanga.
Visite surprise du président Joseph Kabila depuis mercredi dernier à Goma, au Nord Kivu. Quel sens donner à cette visite après les derniers affrontements au Nord Kivu? Quelle réponse apporte-t-il au problème d'insécurité dans cette province? Beaucoup d'auditeurs parmi ceux qui nous ont écrit saluent la visite surprise du président Joseph Kabila à Goma. C'est le cas de Kunda Paul de Bukavu, Tagenda Dungo Germain et Amina, tous deux de Beni dans le Nord Kivu. Pour Amina, par exemple, qui est notre auditrice de Beni, cette visite, dit-elle, prouve la volonté du président de la République de sécuriser la population du Nord Kivu en ordonnant, je cite, les offensives contre le général déchu Laurent Kunda. Beaucoup d'autres auditeurs aussi sont réservés, tels que Joël Angoulou de Mbandaka à l'Équateur. Lui trouve que la visite du président Joseph Kabila, risque d'attiser la colère de Laurent Kunda qui sème l'insécurité à l'est du pays. Nous recevons pour invité dans ce numéro de dialogue entre Congolais Dieudonné Jacques Bakungu, député national élu de Goma, membre fondateur et membre du bureau politique du PPRD, le parti présidentiel. Nous avons Boniface Balamagirkolo, sénateur RCD, également membre de la commission politique administrative et judiciaire au Sénat. Enfin, François Elika, assistant à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Il est là comme analyste politique. Bonsoir à tous, qui êtes nombreux à suivre Dialogue entre Congolais.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h hors de Kinshasa au 099-8-999-222.
Visite surprise du président Joseph Kabila depuis mercredi dernier à Goma, au Nord Kivu. Quel sens donner à cette visite après les derniers affrontements au Nord Kivu? Je vous propose de suivre ce reportage de notre consoeur Gisèle Cage qui a couvert cette arrivée du président Joseph Kabila à Goma.
C'est vers 9h heure locale ce mercredi que l'avion présidentiel a atterri à l'aéroport international de Goma. Certaines autorités de la province, comme le gouverneur et le commandant de la 8e région militaire, étaient présentes pour l'accueillir. D'autres ont dû prendre le cortège présidentiel en cours de route vers la ville. À part cela, aucune autre disposition n'a été prise pour accueillir le chef de l'État qui est arrivé à Goma à la surprise totale de la population. Joseph Kabila a marché à pied de l'aéroport de Goma jusqu'au bureau de la 8e région militaire, environ 7 km. Sous son passage, une foule de gens s'est présentée spontanément le long de la route pour acclamer son arrivée inattendue dans la ville. À la 8e région militaire, Joseph Kabila a eu une réunion à huis clos avec les responsables civils et militaires de la province. Aucune information n'est jusque-là disponible quant à cette deuxième visite du chef de l'État à Goma depuis son élection comme président de la République. Joseph Kabila arrive à Goma après les affrontements il y a 2 semaines à Sake et environ entre les FARDC et les dissidents fidèles à Laurent Kunda, affrontements qui ont visé Sake d'au moins 3/4 de sa population. Gisèle Cage, Goma, Radio Capi.
Merci Gisèle Cage. La population interrogée dans les rues de Goma réagit au micro de Moïse Mutunga Lukube.
Bon, moi je suis étudiant. Bon, par rapport à son arrivée, nous voulons à ce qu'il puisse démontrer que toutes les carottes sont totalement finies pour qu'il puisse appliquer maintenant les bâtons. Dans le cas où il continuait à converger avec des négociations, ça ne nous arrangera rien. Le phénomène Kunda existe depuis 2003. Jusqu'aujourd'hui, le phénomène continue à exister. Il y a par exemple à Ituri, il y avait les seigneurs de guerre, notamment Thomas Luanga. Il n'est pas au Congo, il est déjà extradé au niveau de la justice internationale. Comment on peut continuer à garder M. Kunda? Ou bien c'est lui qui soutient Kunda, ou bien il est avec lui soutient. On ne sait pas comment est-ce qu'il peut continuer à dire une chose. Donc nous voulons à ce qu'il soit arrêté, à ce qu'on les prend et qu'on les met à la disposition de la justice. C'est ça la seule solution. Son arrivée pourra nous réconforter lorsqu'il mettra les mains sur Kunda.
L'arrivée surprise du président de la République, vraiment, ça nous réjouit parce que apparemment les problèmes étaient complexes de Kunda. Ben, nous osons croire que cette fois-ci, vraiment, c'est la dernière chance que nous donnons au gouvernement et surtout que le président est avec nous. S'il partait avec Kunda, vraiment, ça serait une solution vraiment valable.
Tu n'as sais tout le Kunda, moi, je me suis beaucoup à Congo. Depuis que nous avons voté, tout ça, mon petit. À la lakini tetumuhote juu atutoshe ule kuna, lakini anaendelea kutusumbua Ruchuru na wanarisha mabaraje. Mimi nafurahi sana na mimi na yake mara hiyo akose tutapata solution kwa problem ina tuderange sana pa Goma.
Voilà, juste quelques mots en Swahili. On a suivi un habitant de Goma qui dit que voilà, depuis Kunda leur fait les fait souffrir et que ils ont voté le président Kabila notamment pour qu'il aide cette population à vivre dans la paix et à ne plus faire face à toutes ces violences, notamment de la part des éléments fidèles à Laurent Kunda. Pourquoi cette visite intervient seulement maintenant et s'effectue à l'improviste? Question à vous, monsieur le sénateur Boniface Balamagenkolo, vous êtes sénateur RCD.
Merci, cher ami. Je voudrais vous dire d'abord que la visite surprise du chef de l'État au Nord Kivu est une surprise agréable, tant pour toute la nation que pour la population du Nord Kivu qui vit une insécurité indescriptible. Alors, pourquoi la visite du président aujourd'hui? Moi, je pense qu'elle se justifie maintenant, parce que vous savez qu'il y a deux semaines, il y a eu des combats entre l'armée régulière et les insurgés de Nkunda. La population a été jetée dans la rue, elle a connu tout ce que tu peux t'imaginer, je ne veux pas y revenir. Le président, je pense qu'il a l'intention de démontrer à la population que, en fait, il compatit avec celle-ci dans sa peine. Mais aussi, je pense que le président voudrait démontrer à la population qu'il prend à bras le corps le problème de la sécurité à l'est du pays. Pourquoi aujourd'hui? Je me dis qu'hier, c'était pas possible. Il y a 2-3 mois, c'était pas possible parce que, avec le phénomène mixage, la population du Nord du Kivu ne venait pas s'expliquer qu'est-ce qui se passait parce que le processus de mixage avait été fait dans des conditions tout à fait floues. Et le gouvernement a été pris à partie. Le président ne pouvait pas s'expliquer parce que la population n'en voulait pas. Aujourd'hui, qu'on ne parle plus de mixage, que de manière claire, le président de la République a appelé tout le monde à aller au brassage, je pense qu'il veut effectivement descendre à Goma et ne pas risquer de se faire interroger par la population.
Oui. Alors, oui, allez-y.
À ce propos. Alors, mais je me dis aussi, il descend aujourd'hui parce qu'il est attendu à New York la semaine prochaine. Sur les questions qui sont mises à table aux Nations Unies, il y a notamment la question de la sécurité à l'Est et principalement les FDLR, Interahamwe et Nkunda. Oui. Vous savez que certains acteurs politiques internationaux pensent qu'il faut résoudre cette question, la question de Nkunda, par devoir politique, tandis que la position du gouvernement et du président de la République, c'est qu'il faut en découdre, je reprends ces mots, toutes les carottes ont été épuisées, il faut utiliser le bâton. Alors, je pense qu'il est allé sur le sujet à la base et avoir, n'est-ce pas, l'opinion, en tout cas la volonté de la population, afin que l'État traduise tant dans les décisions du gouvernement qu'au niveau de la communauté internationale.
Voilà. Alors, pour vous, monsieur le député national, Dieudonné Jacques Bakungu, vous êtes député national du PPRD, élu de Goma. Vous rentrez d'ailleurs fraîchement de Goma, donc vous avez vécu l'arrivée du président Joseph Kabila. Qu'est-ce que vous répondez lorsque le sénateur Balamagé dit que le président va rassurer, surtout que le climat s'y prête, maintenant que on ne parle plus mixage, que c'est maintenant le brassage, donc le climat était quelque peu favorable aussi à l'arrivée du président de la République, mais aussi une façon de se ressourcer avant d'aller à New York. Qu'est-ce que vous répondez, monsieur le député national Jacques Bakungu du PPRD?
J'accepte l'argument du sénateur. Je vois bien que vraiment c'est ça, notre population croyait peut-être qu'elle était délaissée. Rappelez-vous, lorsque Kunda Batoir est allé attaquer la ville de Goma, la Monique était présente, mais curieusement, la Monique Kunda est arrivée à entrer dans la ville de Bukavu. Ce qui s'était passé là, tout le monde le sait. Aujourd'hui, Kunda attaque Sake, attaque Goma, et on s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Kunda a-t-il vraiment un droit d'aller faire cela à notre population. Voilà maintenant que tout le monde voyait que Kunda avait un quitus, Kunda avait un droit de faire le mal à notre population, et le chef de l'État, maintenant, par cette surprise, concrétise directement cette opinion en disant « je suis présent ». C'est vrai que le sénateur a dit que hier, ce n'était pas possible que la République prenne une décision comme celle-là, parce qu'il y avait encore beaucoup d'aspects, notamment le mixage, qui, pourtant, pour les députés, était une mauvaise chose, parce que elle était, le mixage est venu et d'un coup à se renforcer sur le terrain. Et alors, avec le mixage où notre gouvernement est impliqué là-dedans, où notre armée est impliquée dedans, c'était difficile de savoir ce que Kunda cherchait. Mais les gens qui connaissaient Kunda savaient qu'effectivement, c'était pour lui un alibi. Par cela, il va s'approvisionner en armes, et dès qu'il sera fort, voilà, que, d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait dernièrement. Il a appelé toutes ses troupes, et il a dit, adieu le mixage, nous ne faisons plus partie. Oui. Et dès qu'il s'est décidé de frapper, il a frappé. Maintenant, aujourd'hui, que cette chance, qu'on peut l'appeler chance, qui a été donnée en Kunda, pour qu'ils comprennent que le Congo n'est pas vraiment le théâtre de tous les affrontements, alors, voilà qu'aujourd'hui, maintenant, avec cette mort de ce message, vraiment, on a tout le temps et on a le droit, maintenant, d'aller tout droit vers ce qu'on peut appeler ici en découdre avec le Kunda. Mmh. Voilà pourquoi, moi, je vous dis que vraiment, le chef de l'État est venu à un moment crucial. C'est vrai qu'on a parlé qu'il doit se rendre à New York. Bon, à New York, est-ce que c'est pour faire rapport? Non. Ce qu'il a, il est allé faire à Goma, c'est d'abord pour se rendre sur place, comprendre pourquoi, dans quelques circonstances, notre armée n'est pas à bouter les hausses de Kunda. Vous devez, moi, je viens du terrain, je sais ce qui s'est passé. Il y a eu de confusion, je ne dirais même pas de confusion, mais on a un peu trahi dans cette affaire. Mmh. Parce que nous avions vu une garde qui avait tous les moyens de bouter dehors de Kunda, mais avec le théâtre qui s'est joué, on a vu que les gens qui amenaient ces brigades étaient des connivences avec Kunda, et voilà pourquoi nous avions eu ce problème au niveau des sacs.
Et donc pour vous, avec cette visite du président Joseph Kabila, les forces loyalistes, et donc les FARDC, pourront cette fois-ci rectifier le tir, si on vous comprend bien.
Tout à fait. D'ailleurs, ce n'est même pas pour rectifier les tirs, c'est pour que l'armée de Nord s'organise d'une manière orthodoxe pour qu'on arrive à bout de ce Kunda. Si on continue, je vais vous dire ce qui s'est passé à Sake.
Oui, il faut conclure parce que vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup d'autres, il y a notamment l'assistant.
Tout à fait. Je vous dis à Sake, nos troupes sont allées là-bas. Nous avons constaté que les gens qui avaient notre brigade, la 15e, étaient en contact avec les troupes de Kunda. Et lorsqu'on attaquait d'un front, les autres venaient de l'autre et on leur disait que voilà, nous n'avions pas placé déjà. Oui, imaginez-vous avec une armée comme ça, c'est difficile de gagner.
Ouais, un petit problème avec votre ligne, mais si on comprend, vous parlez de la trahison, hein, ça c'est vous
tout
qui le dites dans les rangs
des
FARDC. Oui, alors François Elika, vous qui êtes analyste politique, vous avez suivi les deux points de vue, qu'est-ce que vous dites? Joseph Kabila est allé rassurer, il est allé se ressourcer d'après Balamagué. Non, il est allé au moment crucial, rétorque Dédonné Jacques Bakungu, qui parle même de trahison décelée, et pas avec la visite du président Kabila dans les rangs ou dans les offensives des FARDC. Qu'est-ce que vous en dites?
Bon, je ne sais pas s'il faut annoncer ça comme ça. Il y a eu trahison, je ne sais pas. Je ne détiens pas les éléments du terrain, c'est honorable qui a été sur le terrain. Mais il faut dire que le président de la République, il ne faut pas le présenter comme un homme qui n'est pas suffisamment renseigné. Il a les meilleures sources de renseignements du pays. Il a l'exact renseignement, l'exacte information à tout moment. Et donc, il connaît bien la situation à l'Est, même s'il ne peut pas se rendre sur terrain. Le chef de l'État s'est rendu sur terrain parce qu'il y a dans l'imaginaire collectif des habitants de Goma, il s'est posé un problème, c'est que tout le monde commençait à se demander si réellement le président de la République peut réussir à convaincre qu'il s'implique personnellement dans la prise en charge de la problématique sécuritaire. Donc, arriver à Goma, c'est, à mon sens, c'est rassurer la population qu'il tient à ce que cette question soit résolue. Arriver à Goma, à mon sens, veut dire que le président de la République veut ici arriver à faire convaincre au niveau de l'imaginaire collectif que je suis l'homme à qui vous avez fait confiance, à qui vous avez confié vos voix, parce que je dois résoudre vos problèmes sécuritaires. Donc, moi, je vois ça, cette visite, comme une sorte d'activité politique personnelle du chef de l'État, d'abord, pour corriger son image qui doit être mise à mal avec tous ces événements, parce que vous avez autour de Goma plus de 50 000 déplacés de guerre qui vivent dans des conditions humanitaires difficiles. Et ces gens, ils ne vont pas. Leur problème, ce n'est pas d'applaudir la personne du président de la République, c'est de voir quelles sont les solutions concrètes que le président de la République apporte. Et donc, par rapport à ça, ce sont des personnes qui sont confrontées à des défis très importants qui se disent à quel sein nous devons nous vouer aujourd'hui. Le président de la République arrive d'abord parce que élu pour, entre autres, la problématique sécuritaire, s'il ne sait pas lui-même se présenter sur terrain, c'est un témoignage d'abandon de cette population.
Et pourquoi une surprise?
Je ne sais même pas pourquoi c'est une surprise, parce que le président de la République, quand il doit se rendre sur place, bon, vous voulez que ça soit publié comment? Moi, je ne considère pas ça comme une surprise, je considère ça comme une visite normale d'un chef de l'État qui doit arriver à se promener sur l'espace dont il est maître. Donc, il ne peut pas. Les autorités aéroportuaires étaient au courant que le président de la République doit arriver. Les services de renseignement s'étaient déployés sur terrain pour préparer, se rassurer que les conditions d'accueil du président de la République devraient être profitables à sa propre sécurité. Je ne sais pas, par visite surprise, vous vouliez dire qu'on puisse donner un communiqué à la radio que le président va descendre tel jour. Bon, mais écoutez, est-ce que c'est la seule modalité pour gérer la communication lorsqu'un président de la République veut se déplacer?
On n'est pas obligé,
je ne vois pas. Encore ici, il faut dire que le président de la République, il doit se rendre au Conseil de sécurité, n'a pas besoin pour aller présenter un dossier par rapport à la question sécuritaire, il n'a pas besoin nécessairement de descendre à Goma. Il a les services de renseignement qui lui apportent l'information exacte, en tout cas par rapport à la manière dont fonctionne ce service. Donc je note ici qu'il y a d'abord ici un problème, c'est que la crédibilité du chef de l'État en tant qu'acteur politique, en tant que le premier des citoyens qui a la charge de gérer le monopole des violences politiques, des violences légalisées, était mise à mal. Ça, il faut le reconnaître. Oui, vous l'avez senti dans le reportage, ce sont des populations qui parlaient, soutenaient que nous avons élu cet homme parce que nous pensons qu'il est le pacificateur, parce que nous croyons que c'est lui qui doit résoudre ce problème. Donc ça, c'est un témoignage fort, et ce témoignage modifie l'image de Joseph Kabila dans l'imaginaire collectif des populations. Mais bien entendu, ici, il va falloir, comme les gens l'ont fait transparaître dans leur déclaration, il faut que le président de la République, après cette visite, arrive effectivement à s'imposer comme la personne qui a des solutions, sinon cette visite n'aura été qu'une visite politique avec une signification moindre. On risque donc d'assister à ça.
Merci François Elika. Visite surprise du président Joseph Kabila depuis mercredi dernier à Goma. Quelle réponse apporte le président de la République aux problèmes d'insécurité dans cette province? C'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie de l'émission. Je vous rappelle, nous sommes avec Boniface Balamagué, sénateur RPD, Dieudonné Jacques Bakungu, député national élu de Goma. Il est membre fondateur et membre du bureau politique du PPRD. Et François Elika est notre analyste politique. Si vous ne connaissez pas notre contact pour réagir, on vous rappelle.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-999-222.
Visite surprise du président Joseph Kabila depuis mercredi dernier à Goma. Quelle réponse apporte le président de la République au problème d'insécurité dans cette province? Réponse de Joseph Kabila au micro de Moïse Mutunga-Lukube.
Ce n'est pas seulement le président de la République qui doit seul ramener la paix. Nous avons l'Assemblée provinciale et je demande qu'elle s'implique aussi. Il ne faudrait pas qu'il y ait un député qui soit membre de l'Assemblée provinciale et en même temps entretient sa propre milice. Il ne faudrait pas non plus que vous soyez notable dans la ville de Goma avec des magasins et des camions à votre disposition et en même temps vous soutenez ceux qui sont à la base de l'insécurité. Le constat dans la province du Nord-Kivu, c'est que ce sont les enfants de cette province qui sont responsables de l'insécurité. Si ce n'est pas un Mulande, c'est un Hutu ou un Tutsi ou encore un Hunde, etc.
Voilà, c'était là les propos du président de la République en Swahili, des propos traduits par Jules Ngala Wamona. Mais ce que la pensée, la déclaration du président contrarie la pensée de certains cadres du MSC, le député national du MSC, Jacques Sima Koli Kiemoun, dit ici ce qu'il pense de l'option militaire choisie par le président Kabila contre le général Nkunda et ses hommes. On l'écoute, il est au téléphone de Guy Roger Nyapala.
De la République doit se prononcer de cette façon-là pour dire que la question de l'insécurité au nord qui va se faire une question de quelques jours, de quelques mois. Je pense que le président de la République en a les moyens et il doit avoir les moyens pour sécuriser tout le monde.
Il peut s'agir de quels moyens? Le renforcement des dispositifs militaires ou une solution purement politique?
Monsieur le journaliste, je suis bien pour la guerre, mais il faut vous dire que la guerre doit être la dernière étape à envisager. Lorsque un conflit est place quelque part, comme le cas maintenant à Goma, la guerre doit être envisagée comme le dernier moyen. Parce que nous devons user de toutes les voies possibles. Notre président de la République doit user de tous les moyens diplomatiques, de tous les moyens politiques possibles pour essayer de contourner ce qui se contacte au Nord-Kivu.
Dédonné Jacques Bakungu, député national, membre du PPRD, vous avez suivi le président de la République, vous étiez là, le président a dit plus question de négociation. Mais il y en a, comme ce député national du MLC, qui pense que la guerre doit être le tout dernier recours. Qu'est-ce que vous en dites?
En tout cas, monsieur le journaliste, je pense que s'il y a quelqu'un qui est vraiment très patient, il faut citer le président de la République. Et d'ailleurs, mon collègue le député du MLC devrait savoir que si nous sommes allés jusqu'au mixage, c'est justement parce que le président de la République ne voulait pas aller directement en guerre contre le Kunda. C'est pourquoi on lui a donné la chance de dire, voilà, et pourtant, tout le monde condamnait ce fixage, mais le chef de l'État avait le fils accepté pour voir si Kunda aurait la bonne volonté de quitter et de ne pas entraîner les gens dans la guerre. Et lorsqu'il dit que ça devrait être le dernier moyen, moi je pense que le chef de l'État a beaucoup patienté d'ailleurs. S'il y a quelqu'un qui a une patience de faire, c'est lui. Comment voulez-vous qu'après le mixage, le Kunda décide lui-même de casser ce mixage et d'amener un groupe de militaires, c'est-à-dire ces hommes, pour aller attaquer la partie qui est restée? C'est le cas du colonel Yav qui a failli être tué dans les Massissi. Maintenant, vous dites que voilà, avant d'entrer en guerre, il faut qu'on passe d'abord toutes les étapes, notamment la négociation et qu'on sort. Mais moi, j'ai dit, un Kunda qui se décide aujourd'hui de frapper une femme, vous allez quand pour dire que voilà, négocions d'abord, alors que ce sont le coup de balle, de canon qui sont sur vous. Je pense que mon collègue devait vraiment comprendre. Et si le chef de l'État dit qu'il n'y a plus question de négociation, ce n'est pas parce que c'est le chef de l'État qui ne veut pas de négociation, c'est le peuple congolais lui-même. Je vous ai parlé de Bukavu, je vous ai parlé du Nord Kivu, un peu partout là à Goma. C'est toujours Kunda qui fait ça. Et il n'y a personne qui attaque un Kunda. Quand il se décide, lui, il attaque.
Oui, mais...
Donc, cette guerre que nous connaissons, ce n'est pas une guerre voulue par les Congos. Mmh. Et tout le monde sait que Kunda derrière Kunda, il y a toujours le Rwanda qui est là. Je pense que vraiment nous aimons notre pays, nous aimons le Congo, il faut que nous ayons le même point de vue. Quand le chef de l'État, tout le monde a pas qu'il y ait des solutions à ce niveau, maintenant que les gens commencent à dire que non, vous voulez aller vite. Mais, alors combien de gens sont en train de mourir là-bas?
Oui,
tout ça, les villages
oui.
Escandiers. Moi, je pense que soit nos collègues devraient dire que nous ne sommes pas forts, Nkunda est plus fort que nous, alors laissez Nkunda marcher sur nous.
Oui, désolé Jacques Bakungu. Monsieur le député, désolé.
Il n'a pas pu aussi.
Oui, désolé Jacques Bakungu. Qu'est-ce que vous répondez aux proches de Nkunda qui accusent le gouvernement de n'avoir pas respecté certaines clauses de l'accord du mixage?
Oui, il faut aller jusqu'à la victoire finale. Voilà un peu ce que je dis à ceux-ci.
J'ai l'impression que vous n'avez pas compris ma question. Qu'est-ce que vous répondez à l'entourage de Nkunda qui dit que si le mixage a échoué, c'est parce que le gouvernement n'aurait pas respecté certaines clauses de l'accord du mixage?
Monsieur le journaliste, moi je pense que quand ça, il dit ça, il fallait qu'on vous montre d'abord les clauses qui sont dans les conventions. Il y avait quelles clauses? Parce que Nkunda avait demandé à ce que il y a le mixage, est à IG. Les autres clauses, ce qu'il est en train de demander là, il fallait qu'il soit clair, qu'il dise qu'est-ce qu'on s'est convenu et qu'est-ce qu'on n'a pas donné en Nkunda. Quand il parle, par exemple, que ces militaires ne doivent pas quitter, par exemple, le Nord-Kivu, vous aviez déjà dit que dans une armée, un individu doit dire que non, les militaires ne peuvent pas quitter, ils doivent rester ici, en train de garder ma famille ou bien ma tribu. Alors qu'au nord du Kivu, il y a plusieurs tribus. Alors si tout le monde disait que nous aussi, nous allons protéger notre tribu, nous aurons combien d'armées là-bas?
Donc on a compris pour vous, le président de la République a raison.
Il a raison.
Il a suffisamment patienté et que maintenant, c'est la force. Alors, ouais, Boniface Balamagué, vous qui êtes sénateur RCD, qu'est-ce que vous pensez de cette option du président de la République? On a suivi même dans le son, le président accuse même les fils du Nord-Kivu, hein, qui selon lui, notamment même des notables, qui selon lui alimentent, soutiennent les milices. Boniface Balamagué, comment résoudre finalement cette question avec des notables, donc des personnalités civiles qui soutiendraient, d'après le président de la République, certaines milices?
Oui, c'est vrai, il faut avouer qu'à part le phénomène Nkunda au Nord-Kivu, il y a aussi le phénomène Maïmaï qui commettent des exactions. Il y a des Maïmaï, presque chaque tribu au Nord-Kivu, moi j'ai toutes ces informations, a une milice. Évidemment, chaque tribu dit, bon, tant que Nkunda est là pour protéger sa tribu, nous aussi nous sommes là. Mais il faut dire que ces milices sont entretenues et soutenues par les hommes politiques qui sont là. Le président de la République a raison, évidemment, il faut taper sur la table. On ne peut pas siéger au Parlement provincial, national ou au Sénat et continuer à entretenir les milices. Alors là, on joue le double jeu. Mais là où je ne suis pas d'accord, je voudrais dire ceci, c'est que par rapport aux autres milices, je sais que le gouvernement les a utilisés contre Nkunda.
Vous parlez de quelle milice?
Oui, les Maïmaï, je veux dire. Les Maïmaï, il y a des Maïmaï qui ont été utilisés contre d'autres milices. Alors, il y a des Maïmaï, des milices pro-gouvernement, donc des sujets pro-gouvernement. Et là, la position du gouvernement n'est pas claire, évidemment. Aujourd'hui, les choses deviennent plus claires qu'hier. Mais moi, je voudrais dire que par rapport à la position du président de la République, celle d'utiliser la force, il faut qu'on soit conséquent. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on a utilisé la force contre Nkunda. Les conséquences, nous les connaissons, c'est qu'il y a nos tantes, nos neveux, qui sont dans les camps aujourd'hui. Il y a un adage congolais qui dit, que, en swahili évidemment, que lorsque deux éléphants se battent, ce sont les seuls qui apathissent. Vous comprenez? Alors, mais lorsque je regarde notre armée, il faut être conséquent. Sur le plan logistique, je ne pense pas que les choses soient au point. Hein. Sur le plan moral, je ne pense pas que les choses soient au point. Lorsque vous regardez effectivement fait à notre armée, notamment nos militaires, leurs soldes, ça ne permet pas aux militaires de pouvoir avoir le moral suffisant pour aller affronter, n'est-ce pas, un insurgé comme Nkunda qui est surarmé, il faut le dire. Parce que l'honorable Bakungu a reconnu effectivement que, notre armée ne s'est pas très, très bien comportée lors de la dernière guerre.
Hein. Il a parlé de trahison. Hein.
Lui parle de la trahison, mais moi je pense que notre armée ne s'est pas bien comportée en général face à Nkunda. Alors, moi je voudrais qu'on résolve le problème, soit par les armes ou par le dialogue, mais je voudrais qu'on y aille une fois pour toutes. Alors, que deviendrait-il une guerre qui est engagée par le gouvernement contre un Kunda et qui n'aboutit pas tout de suite, qui jette sur la rue d'autres populations et d'autres gens dans les camps? Ça deviendrait compliqué pour le gouvernement, pour nous tous, évidemment. Moi, je pense qu'il faut exploiter, comme l'a dit mon collègue du MLC, il faut exploiter tant les voies politiques que les voies militaires, évidemment. Parce que la voie militaire ne remplace jamais la voie diplomatique et politique. Moi, je pense que c'est vrai, le président a dit que les carottes sont épuisées. Je ne pense pas que les carottes en matière de dialogue et en matière politique soient suffisamment épuisées. Le président est patient, je connais ses qualités. Il n'a qu'à être patient parce que la paix n'a pas de prix.
La paix.
Mais si, ça n'a pas de prix, mais s'il pense que nous devons y aller par la voie des armes, il faut être conséquent. Mais moi, je doute parce que les moyens ne suivent pas. Les militaires qui se comportent sur le terrain, ils sont sur le terrain, ils ne sont pas soutenus du tout. Vous comprenez? Moi, je doute. Je pense qu'on peut encore explorer la voie pacifique, évidemment, mais tout le monde serait choqué de dire, bon, écoute, comment négocier avec un Kunda qui commet autant d'exactions? C'est vraiment choquant pour tout le monde, évidemment. Mais je vous dis que la paix n'a pas de prix.
Voilà. Est-ce que François Elika, finalement, puisque le président est là, il annonce plus de négociations, vous pensez que le président devrait encore revenir sur ses promesses pour dire que voilà, malgré cette annonce à la population du Nord Kivu, on négocie quand même au nom de la paix, comme le souhaite Balama Gekolo et le député qu'on a suivi du LC?
Il faut considérer que la politique est une donnée flexible qui s'adapte au gré des circonstances et l'environnement en fonction des rapports de force. Il est vrai que lorsqu'on observe le comportement de nos troupes, les degrés de motivation, on s'est dit, bon, ça pose problème, c'est vrai en termes de logistique, en termes du système même des rémunérations, mais il y a au-delà d'autres considérations d'ordre moral qui peuvent aussi être prises en charge. Bon, écoutez, le problème ici, il faut le considérer, comme je l'ai dit lors de la dernière émission, peut-être que là j'ai l'occasion d'expliciter davantage mon argumentaire, c'est que la question d'un Kunda n'est pas une question locale. Il y a des ramifications, il n'y a pas que le Rwanda, il y a plusieurs réseaux criminels qui trouvent intérêt à criminaliser l'espace public à l'est du pays et à tirer énormément de profits. Vous avez plusieurs groupes et qui ravitaillent Nkunda. Déjà, le fait que l'honorable sénateur reconnaisse qu'Nkunda est surarmé, ça veut donc dire qu'il y a lieu qu'on se pose la question où est-ce qu'il trouve toutes ces armes. Donc, ces armes viennent de plusieurs réseaux qui ont été décrits par des études qui existent du Pakistan, de la Chine et de bien d'autres réseaux criminels, mais qui sont même entretenus par des personnalités qui, au fait, traitent officiellement avec la République démocratique du Congo. Ce sont des études qui existent et qui, je m'imagine, sont à la disposition du service de renseignement.
Oui, mais
donc, ceci pour amener à la chose de façon plus concrète, ceci pour dire que lorsque le président de la République lève l'option militaire, il doit, c'est vrai, être conséquent, mais par conséquent, cela veut dire qu'il doit suffisamment corriger sur le plan interne la question de l'affectation financière, la question de la logistique, mais aussi savoir qu'au-delà, nous ne pourrons pas résoudre cette question sans arriver à des accords d'assistance militaire. Ça, c'est pratiquement impossible. Nous ne pouvons pas non plus résoudre cette question sans arriver au niveau de notre diplomatie à mettre en place un système, en tout cas les lobbying doivent fonctionner, pour qu'on fasse suffisamment pression sur le Rwanda et les diverses zones de ravitaillement des zones formelles ou des bases arrière d'Nkunda, le Rwanda, la Tanzanie et bien d'autres pays qui, au fait, arrivent à laisser passer des armes. Donc, l'action diplomatique, et à ce niveau, notre diplomatie ne fonctionne pas correctement, donc, par rapport à cette question, la communication même, en termes de... Parce qu'on ne voit pas le gouvernement communiquer pour ne plus que amener dans l'imaginaire collectif la nécessité d'intérioriser les soucis patriotiques de la survie de la nation. C'est vrai, la paix n'a pas de prix, mais tous les jours, les gens meurent aussi du fait que les conditions, même sur terrain, sont des conditions difficiles.
Oui, mais François Elika, je ne te coupe pas, excusez-moi, je ne vous coupe pas, je vais juste, puisque vous parlez du Rwanda, il y a une interview, d'après une dépêche, c'est Al Jazeera, reprise par l'AFP, c'est le président rwandais, Paul Kagame,
qui accuse le gouvernement congolais d'avoir échoué de mettre fin aux rebelles, à la présence des rebelles, de groupes rebelles, donc hutu-rwandais. Il accuse aussi le gouvernement congolais de persécuter, il les cite, hein, les groupes tutsi congolais, mais aussi, toujours, le président rwandais accuse le gouvernement de diviser le peuple en le poussant à se battre entre eux. Et vous pensez que dans ce contexte, avec une telle déclaration du président Kagame, il y a moyen de déclencher, comme vous le dites, la machine diplomatique?
Cette déclaration démontre déjà clairement, et c'est là qu'il faut revenir sur les déficits même du fonctionnement de notre gouvernement, où nous avons reçu le ministre rwandais des Affaires étrangères, qui a au fait fait une déclaration similaire, ici à Kinshasa, sans que notre propre ministre des Affaires étrangères ne puisse apporter un démenti ou en fait une contradiction. Donc ça démontre que nous ne fonctionnons pas correctement. Il est aujourd'hui admis, c'est clair, que la question identitaire, c'est vrai, elle existe dans tous les États. La question de cohabitation existe. Mais vous pensez vraiment, avec tous les débats qu'il y a eu dans ce pays, on a mis en doute la propre identité du président de la République dans ce pays. Vous pensez que ce soit encore lui qui se mettrait à construire des politiques destinées à violenter les minorités? Non.
Concrètement, pour vous dire,
que la question identitaire est une question construite comme cahier de charge d'un Kunda, alors que le vrai problème n'est pas celui-là. Le vrai problème est ailleurs. Quel est le vrai problème? C'est qu'il faut arriver à installer un leadership en République démocratique du Congo qui soit celui qui est propice à la criminalisation de l'espace pour permettre, un, au Rwanda de continuer son processus d'embourgeoisement politique. En tout cas, les services de renseignement rwandais travaillent là-dessus, dès que le Congo est très actif.
Mais là, c'est à long terme.
Ça s'est fait au Rwanda. Oui. Ça s'est fait au Rwanda, c'est pas à long terme. Ça a commencé avec toutes les deux guerres que nous avons connues. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous devons suffisamment mobiliser une action diplomatique et une action militaire conjuguée sur la question pour qu'on arrive à vider. En tout cas, le cahier de charge de Kunda doit être vidé de son contenu réel pour faire comprendre à tout le monde que les minorités ne sont pas violentées ou mises en insécurité en République démocratique du Congo.
Merci François et Ilika. Visite surprise du président Joseph Kabila depuis mercredi dernier à Goma. Quel sens donner à cette visite après les derniers affrontements au Nord Kivu? Quelle réponse apporte-t-il aux problèmes d'insécurité dans cette province? Sont avec nous comme invité Dieudonné Jacques Bakungu, député national, membre et fondateur et membre du bureau politique du PPRD. Boniface Balamagué, sénateur RCD. François Ilika, analyste politique. Il est l'heure de prendre les réactions des auditeurs avec vous, Guy Roger Nyampala.
Félix Changa de Bukavu, dans le sud Kivu, pense qu'en faisant trop de déclarations à la presse, le gouvernement permet à Kunda de se réorganiser. Il faut en finir une fois pour toutes avec ce chapelet de souffrance imposé au peuple du nord Kivu. Pour Richard Bitoka de Kalemi, dans le Katanga, la décente surprise du président à Goma ne peut rien apporter comme solution car nous sommes militairement faibles, donc l'unique solution reste la négociation avec Kunda et Kagame. Kassele de Bukavu, dans le sud Kivu, pense que la visite du président de la République à Goma figure parmi les nombreuses visites non fructueuses qu'il avait déjà effectuées à Goma. Richard de Boutembo, dans le Nord Kivu, veut savoir si le président peut rassurer qu'après son passage, les deux provinces deviendront calmes. Enfin, pour Robert Baumé de Bukavu, dans le Sud Kivu, pas plus ni moins la visite du président Kabila peut être interprétée comme une visite d'un patriote responsable et comme une visite de réconfort moral à la population nord-kivusienne.
Merci Guy Roger Yampala. Alors, je reviens vers vous pour réagir à ces questions, mais aussi opinions des auditeurs. Nous tendons vers la fin de l'émission, essayer d'être concis et répondre directement. Je commence par vous, Dieudonné Jacques Bakungu, député national, membre du PPRD, du bureau politique du PPRD. Nous avons notamment Richard Bitoka de Kalemi dans le Katanga qui pense que la descente surprise du président à Goma ne peut rien apporter comme solution car, dit-il, nous sommes militairement faibles, donc l'unique solution reste la négociation avec Kunda et Kagame. Votre réponse?
J'ai bien suivi le sénateur lorsqu'il a dit que il y a des problèmes, il y a des milices qui sont dirigées contre les autres. Moi, j'ai dit que vraiment, nous devions prendre le problème qui se passe au Nord Kivu. Chaque fois, lorsqu'il n'y a pas de guerre au Nord Kivu, vous n'allez pas voir un groupe aller attaquer, à l'exception de ce groupe de Kunda qui attaque toujours les autres. Moi, je pense que si on n'arrive pas à saisir le problème d'assistance-là, on peut croire que non, Kunda, on les dérange, son cahier des charges, c'est vrai, il est en train de protéger une minorité. Mais il y a un problème que je viens de suivre ici, sur la déclaration du président rwandais. Lorsqu'il dit qu'on est en train de persécuter les Tutsis au Congo, moi, je pense que cette déclaration, vraiment, elle n'est pas fondée. Parce que si vous voyez, par exemple, les élections ici, que nous venons de passer ici, au niveau de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, il n'y a aucun Tutsi dans cette Assemblée. Mais cette Assemblée a voté à 13 voix un Tutsi devenu sénateur. Et il est ici au Sénat. Alors que celui qui le suivait, c'était un Andé, qui sont d'ailleurs majoritaires, qui avait 8 voix.
Oui, pour revenir à la question de notre auditeur, vous avez déjà répondu aux déclarations du président Kagame, mais pour revenir à la question de l'auditeur, est-ce que vous pensez, comme cet auditeur, Richard Bitoka de Kalemi, que nous sommes militairement faibles, ce qu'il dit, et donc la solution reste la négociation?
Non, je ne suis pas d'accord avec cela parce que sur le terrain, par exemple, quand vous voyez les affrontements qui se sont passés, l'armée congolaise n'était pas faible. Moi, au départ, quand vous m'aviez suivi, je vous ai dit qu'il y avait une des organisations qui a été voulue par certains responsables militaires. Et je pense que la présence du chef de l'État à Goma va nécessairement résoudre ce problème-là de ces commandants qui ont amené nos militaires au débat au niveau des stats.
Merci beaucoup. Merci, parce que vous n'avez pas tout le temps, excusez-moi. Il faut conclure en quelques secondes, en 2 secondes, parce qu'il faut qu'on donne la parole à d'autres.
Alors, pour conclure, moi j'ai dit une chose, j'ai dit que vraiment le chef de l'État, et même en écoutant tous les militaires qui sont sur le terrain, ils disent que cette présence vient de leur donner vraiment la force nécessaire pour bouter dehors Nkunda. Mm-hmm. Les négociations, ce sont les gens qui ne comprennent rien, qui peuvent encore parler aujourd'hui des négociations.
Merci
beaucoup. Aujourd'hui, il faut régler le problème comme on a fait aussi qui vous.
Merci. Merci beaucoup. Il faut vous arrêter, s'il vous plaît, il faut vous arrêter parce que vous risquez de prendre tout le temps. Alors, pour Boniface Balamagué, sénateur RCD, il y a Richard de Boutembo dans le Nord Kivu qui veut savoir si le président peut rassurer qu'après son passage, les deux provinces du Nord et du Sud Kivu deviendront calmes. Votre réponse en une minute.
Ah non, il ne faut pas qu'il pense qu'après son passage, tout de suite, dites-nous qu'il y aura la sécurité, il y aura la paix, il n'y aura plus de guerre. Ah non, le problème de sécurité, c'est un processus, évidemment. Là, il va se mettre en place des mécanismes de résolution de cette question. Comme le président l'a dit, le gouvernement va y aller par la force. C'est pas tout de suite que ceci va être déclenché. Hein. Donc, il faudra attendre, il faudra être armé de patience. Nous devions encore souffrir, nous, les gens de l'Est, durant peut-être 1, 2, 3 mois. Mais au bout de 6 mois... Si la paix n'est pas restaurée, là, il faut dire que, franchement, le gouvernement sera discrédité. Le président de la République, qui a été élu massivement au nord et au sud, qui vous n'aura pas de réponse à donner à la population, parce que là, il est attendu.
Merci beaucoup. Alors, on termine par vous, François Elika. Félix Tchanga-Tchanga, de Bukavu, dans le sud, qui vous pense qu'en faisant trop de déclarations à la presse, le gouvernement permet à Kunda de se réorganiser. Il faut en finir une fois pour toutes avec ce chapelet de souffrance imposé au peuple du Nord Kivu.
Il faut considérer tout ça comme un défi. Le défi ici, c'est de mettre en place des stratégies concrètes. Nous n'avons pas besoin, c'est vrai, de trop de déclarations. Et le président lui-même, c'est vrai, il a fait cette déclaration, mais il va falloir que cette déclaration soit effectivement suivie des faits. S'il n'y a pas de faits, c'est tout de suite un discrédit sur sa personne et sur le gouvernement. Il va falloir, ici, je considère, moi, la visite du chef de l'État comme cette possibilité, en tout cas, interpellée par les événements du terrain, la possibilité qu'il y a à réqualifier la manière de travailler du gouvernement, l'approche avec laquelle il faut aborder la question, tant sur le plan militaire que sur le plan diplomatique, pour arriver finalement à résoudre la question.
Donc ce n'est pas une simple visite de réconfort moral, comme le dit Robert Baumé de Bukavu.
Pas une simple visite, mais il va falloir que le président lui-même arrive à nous prouver quels sont finalement les contenus qu'il donne à cette visite.
Voilà, merci beaucoup. C'est avec vous, François Elika, que nous mettons fin à cette émission Dialogue entre Congolais. Vous nous avez suivis grâce à la mise en onde de signer héritier Sidiakala. Nadine Foula était à la réalisation. Cette émission vous a été préparée par Guy Roger Nyampala avec la collaboration de de nos collègues de la rédaction Okapi Goma qui nous disons merci et à vous tous de nous avoir suivis.
L'émission Dialogue entre Congolais et ce soir sera rediffusée demain matin à 4h45 de Kinshasa, 5h45 de l'Est. Vous pouvez également la réécouter sur le site internet de Radio Okapi qui est le www.radiookapi.net et également en ondes courtes sur 11690 kHz.